Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Nouvelle attaque de la milice Codeco hier à Bianda, dans le territoire de Djougou en Ituri. Bilan 7 morts, une dizaine de blessés, des personnes portées disparues et des maisons de commerce incendiées. Province du Maniema, la rougeole a déjà tué 48 personnes sur plus de 400 cas enregistrés depuis la semaine dernière dans la zone de santé de Kunda. Et pour lutter contre cette maladie, l'OMS dote la division provinciale de la santé Maniema de 63 kits. Et puis, l'invité de ce midi, Angèle Dikongé à Tangana, représentante du ACR en RDC. Elle nous parle de sa mission en Ituri, notamment ses échanges cette semaine avec le gouverneur de l'Ituri et le comité provincial de sécurité. Au menu, la situation humanitaire et sécuritaire des personnes déplacées. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Une nouvelle attaque de la milice Codeco a fait 7 morts, une dizaine de personnes blessées, d'autres portées disparues et des maisons de commerce incendiées. Ce drame s'est produit jeudi dans la localité de Bianda, à plus de 100 km au nord de Bunia, dans le territoire de Djougou. Les notables de Banyalikilo demandent au gouvernement de démanteler ce groupe armé qui occupe plusieurs groupements de cette entité coutumière. Isaac Remoyope nous fait le point.
Un groupe d'assaillants a envahi jeudi tous les matins la localité de Bianda vers l'Odjo dans le territoire de Djougou. Ils ont ouvert le feu sur les habitants réveillés de leur sommeil par des tirs nourris. Certains notables de Banyalikilo avancent un bilan provisoire de 7 morts, 17 blessés et 8 personnes prises en otage. Ces miliciens ont également incendié des boutiques après avoir pillé toutes les marchandises. Une autre attaque de ces groupes armés est signalée ce vendredi matin à Gangala dans la même entité où ils ont mis le feu sur certaines habitations, ajoutent les mêmes sources. Le président de la communauté Niali fustige les violences à répétition de cette milice. Vital Tungulo plaide pour le démantèlement des groupes armés qui occupent depuis 4 ans 13 groupements sur 15 dans cette entité coutumière, mais aussi de les intégrer dans les processus de désarmement conformément aux différents accords de paix signés avec le gouvernement. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans le territoire de Beni, cette découverte macabre hier jeudi, il s'agit des ossements humains d'une vingtaine de personnes vraisemblablement tuées par les rebelles des EDF dans le groupement de Malambo, secteur de Rwenzori. Selon la nouvelle société civile congolaise, ces ossements ont été découverts par les habitants. André Kitenge nous en parle.
C'est pour la deuxième fois que des ossements humains sont découverts dans les villages d'Ntoma et Mouloa dans le groupement de Malambo. En octobre 2023, des restes humains d'une dizaine de personnes avaient déjà été découverts dans la même région. Ce jeudi, ce sont des ossements de 15 corps qui ont été découverts en Ntoma et 4 autres à Mouloa. Selon Mumbere Meleki Moulala, le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, il s'agit de civils qui ont été tués par des rebelles des ADF après leur enlèvement. Il plaide cependant pour des enquêtes sérieuses pour s'assurer qu'il s'agit bel et bien d'ossements des civils.
Il y a eu découverte de 19 corps. Les squelettes montrent qu'ils seraient ligotés avant d'être tués. Alors, nous pensons que c'est toujours les ADF qui sont pointés jusqu'à présent. Nous supposons que ce sont des civils parce que depuis longtemps, on était en train d'enregistrer l'enlèvement de plusieurs personnes dans différentes agglomérations. Mais les enquêtes qui seront menées par les services attitrés vont nous dire plus.
Le chef du groupement de Malambo, le Mwami John Kambalisi Bendire, appelle la population à la vigilance en cette période où un calme règne dans le groupement depuis le déploiement des soldats de la force conjointe FARDC-UPDF dans la région. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu. La situation est incertaine depuis ce matin dans la région de Kanyabayonga, à la limite entre Bwito et le sud Lubero. Plusieurs sources confirment que 3 bombes sont tombées ce matin à Buhundu 2, blessant 5 personnes, dont un militaire, une femme et 2 enfants. Reportage de Sifamaguro, rendu par Jacques-Yves Molima.
D'après nos sources, des affrontements à l'artillerie lourde se poursuivent dans cette région où les deux parties se lancent des bombes. En outre, la coalition FARDC-Wazalendo a réussi hier à repousser les rebelles sur l'axe Rwindi Park, mais aussi l'axe Lusowa, Bulindi et Butalongola, affirment les notables de la région. D'autre part, nos sources rapportent que certaines localités ont été récupérées par les Wazalendo hier jeudi dans la partie des Bwito en territoire de Rutshuru. C'est notamment Kabizo, Mulimbi, Butare, Bambo, Bundase et Mwishu. Chababoui. Les rebelles du M23 auraient dégarni ce village pour aller se concentrer sur le front nord autour de Kanyabayonga et automatiquement, les Wazalendo ont récupéré ces localités, confirment plusieurs sources. Par ailleurs, un calme relatif s'observe sur les autres axes des affrontements, notamment l'axe Sake ainsi que l'axe Kibati à Nyiragongo où les deux forces sont toujours aux aguets.
Pendant ce temps, au sud Kivu, 1400 réfugiés rwandais et burundais vivant dans la ville de Bukavu demandent à la Commission nationale pour les réfugiés, CNR, de plaider auprès des banques pour leur faciliter eux aussi les opérations bancaires. En effet, les cartes d'identité pour réfugiés ne sont pas prises en compte, s'inquiète le représentant de ces réfugiés. Une inquiétude soulevée hier lors des échanges à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Jean Kassami pour les détails.
Ces blocages privent aux réfugiés urbains de procéder au retrait et à l'envoi de l'argent. Leurs représentants sollicitent au gouvernement de la RDC via la CNR, Commission nationale pour les réfugiés, de débloquer cette situation qui indispose les 1400 réfugiés rwandais et burundais vivant dans la ville de Bukavu. Leurs comptes bancaires restent inaccessibles, les cartes des réfugiés n'étant pas éligibles en lieu et place de cartes d'électeur pour les nationaux. Ainsi, ces réfugiés tendent la main à la structure étatique, la CNR, qui collabore étroitement avec les ACR, de plaider en leur faveur auprès des institutions bancaires. Deux autres réclamations préoccupent également ces mêmes réfugiés rwandais et burundais vivant à Bukavu, à savoir avoir accès à l'emploi et au logement pour leur permettre de subvenir à leurs besoins fondamentaux dans la ville qui les abrite depuis des années. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Direction la province du Maniema. Je vous l'ai dit dans les titres, plus de 400 cas de rougeole avec 48 décès sont enregistrés depuis la semaine passée dans la zone de santé de Kunda. Pour contribuer à la lutte contre la rougeole, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dote la division provinciale de la santé, DPS Maniema, de 63 kits contre la rougeole. La remise de ces médicaments a eu lieu hier 20 juin en présence des autorités sanitaires. Selon l'OMS et même la division provinciale de la santé, un kit contient les médicaments pouvant soigner au moins 100 malades. Des détails avec Florence Kizalunga.
Pour l'OMS, ce lot de médicaments vient voler au secours des malades se trouvant dans les différentes zones de santé du Maniema touchées par la rougeole. Dieudonné Tabala, administrateur à l'OMS Kindu.
L'OMS, au nom du chef du sous-bureau, nous sommes là pour vous remettre ces 63 kits de rougeole pour que ça puisse servir d'appui à nos populations, à nos malades qui sont en train de souffrir dans les zones de santé.
Et à la division provinciale de la santé de saluer ce geste de l'OMS qui va sans doute réduire le taux de létalité qui est au-delà des 10%. Docteur Shabani Kiamuteba George, chef de division intérimaire.
Il y a les zones qui ont des problèmes, par exemple, la zone de santé de Kampen et la zone de santé de Kunda. Parce qu'à Kunda, pour la semaine passée, on était dans les 418 cas de rougeole avec 48 décès. Donc le taux de létalité, c'est au-delà des 10%. Ce qui était vraiment grave, on manquait des médicaments pour la prise en charge médicale. Malgré on était en train de vacciner les enfants, mais on manquait les médicaments. Mais comme notre partenaire OMS vient de nous doter les médicaments, je sais qu'avec ces médicaments, il n'y aura plus de cas de décès.
Sachez que la DPS Maniema s'est dit disposée à recevoir le don des autres partenaires pour éradiquer la rougeole. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Par ailleurs, plus d'un milliard de dollars sont déjà annoncés pour renforcer la production locale africaine et pour mettre sur pied un ambitieux accélérateur de la production des vaccins en Afrique pour soutenir les projets africains. Annonce faite hier à Paris, en France, à l'ouverture du Forum pour la souveraineté et l'innovation vaccinale en Afrique. Le constat sur terrain indique que l'Afrique importe toujours 99% de ses vaccins à des prix prohibitifs alors que les pays riches s'approprient la majeure partie de la production mondiale. Les chefs d'État, les représentants de l'Alliance du vaccin Gavi et ceux de l'Union africaine ont affiché leur volonté de faire front commun pour mieux financer la santé en Afrique. Plus de détails avec Alain Rong-Mouchinj.
Le Forum sur l'innovation vaccinale permet de réunir des fonds pour mettre sur pied cet ambitieux dispositif. L'Alliance vaccinale Gavi, qui fournit des vaccins à bas prix aux pays les plus pauvres, a aussi lancé son plan de refinancement pour les 5 années à venir. Nous avons demandé 9 milliards de financement additionnel pour nos opérations et nos efforts pour mobiliser des ressources pour l'accélérateur de production vaccinale ont été fructueux avec des promesses de financement qui s'élèvent au minimum à 1,5 2,2 milliards de dollars, souligne Sanya Nishtar, la directrice de Gavi. Depuis le début des années 2000, l'Alliance vaccinale Gavi a permis la vaccination d'un milliard d'enfants parmi les plus pauvres du monde. L'autonomie de l'Afrique en matière de vaccins est au plancher, reconnu Moussa Faki Mahamat au nom de l'Union africaine. La souveraineté vaccinale et sanitaire se conquiert, a-t-il ajouté, comme la souveraineté politique. L'une des priorités pour le Forum pour la souveraineté et l'innovation vaccinale sera de doter l'Afrique d'usines de fabrication de vaccins contre le choléra. Sur le continent, les cas sont en recrudescence. Pour Jean Kaseya, le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, c'est évident, l'Afrique doit pouvoir fabriquer ce vaccin sur son sol.
Rendons-nous au Maïndombe. Le commissaire fluvial de Mouchi est suspendu de ses fonctions par l'autorité provinciale. Il lui est reproché d'avoir autorisé la navigation de l'embarcation sans remplir les formalités d'usage. Il s'agit en effet de l'embarcation qui a chaviré il y a quelques jours dans la rivière Kwa dans le Maïndombe. Information livrée par la gouverneure Rita Bola, propos recueillis par Irène Boma.
Après le naufrage, il fallait directement voir tes responsabilités. Qui a fait quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a eu naufrage? Et on a directement sanctionné le commissaire fluvial qui a donné l'autorisation de sortie à cet engin qui n'avait pas fait toutes ses formalités à la province. Et on a écrit au DG de la DGM pour qu'il puisse sanctionner aussi son collaborateur qui à ce jour n'arrive pas à nous donner le manifeste exact des passagers. Nous avons dépêché tout un bac, un grand bateau ici chez nous, de Inongo pour aller jusqu'à Lediba, là où il y a eu un naufrage, afin de détruire l'engin qui est sous l'eau pour faire évacuer les cadavres qui étaient coincés dessus. Et cela a été fait. Et nous avons pris en charge les rescapés pour qu'ils puissent regagner leur toit à Mouchi. Et c'est là effet aussi qui a été donné aux rescapés. J'ai pris en charge les enterrements. On a pris en charge, parce que pour moi c'est le gouvernement provincial, on a pris en charge le fait de casser cet engin-là, de le détruire sous les eaux, sinon il y aurait d'autres accidents à l'avenir.
Rappelons qu'il y a eu plus de 170 rescapés et au moins 86 disparus dans ce naufrage. Jusque-là, 17 corps ont été retrouvés par des plongeurs et enterrés, rapporte l'administrateur du territoire de Bolobo, Jonathan Ipama, qui a conduit les opérations de recherche des corps. Nord Kivu, le prix du poisson salé a pris de l'ascenseur depuis bientôt 2 semaines sur les marchés de la ville de Beni. En cause, la rareté de cet aliment à la suite du blocage en Ouganda depuis plusieurs jours des véhicules transportant du poisson salé à destination de la RDC. Les opérateurs économiques locaux soupçonnent le gouvernement ougandais à travers cette mesure de vouloir déplacer le marché de poisson salé situé à Kasindi-Lubiria dans le territoire de Beni vers l'Ouganda. Reportage de Martial Papimukeba.
Au marché central de Kiloko à Beni, 1 kilo de poisson salé qui se vendait entre 12 000 et 20 000 francs congolais se vend actuellement entre 15 000 et 22 000 francs. La rareté de cette denrée sur les marchés est à la base de cette situation, comme l'explique cette vendeuse rencontrée sur place.
Cette qualité se vend actuellement à 22 000 francs, mais avant ça se vendait à 20 000, mais c'est maintenant à 18 000 francs. Le prix a augmenté depuis la fermeture du marché de Kasindi-Lubiria. Le président Museveni veut que ce marché reste en Ouganda et de notre côté, nous voulons que ce marché reste chez nous.
Certains dépôts qui vendent en gros du poisson salé au marché de Kiloko à Beni sont déjà en rupture des stocks et ne fonctionnent plus. Depuis plus de 2 semaines, la FEC de Kasindi-Lubiria a décidé de l'arrêt de l'importation des poissons salés à partir de l'Ouganda. Elle dit s'opposer à la tentative de l'Ouganda de vouloir déplacer sur son territoire les marchés des poissons salés situés à la frontière congolaise de Kasindi-Lubiria. Beni. Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes à Nairobi, la capitale du Kenya. La jeunesse kenyane dans la rue pour contester les mesures présentes dans le projet de loi des finances 2024-2025. Malgré le rétro-pédalage du gouvernement, la colère ne faiblit pas. Dans la nuit de jeudi à ce vendredi, des incendies ont été observés à Nairobi. En effet, depuis 3 jours, des centaines de manifestants se réunissent dans les principales villes du pays pour exprimer leur désaccord lié au projet de loi des finances 2024-2025. Celui-ci inclut une taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules particuliers et une autre de 16% sur le pain.
L'invité.
Nous recevons la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies HCR en RDC en mission en Ituri. Elle a échangé mercredi avec le gouverneur de cette province et le comité provincial de sécurité. Les deux parties ont passé en revue la situation humanitaire et sécuritaire des personnes en déplacement forcé, dont les déplacés internes, les réfugiés et les rapatriés. Elles ont insisté surtout sur le caractère civil des sites, principe parfois violé par les services de sécurité, et aussi sur la recherche des solutions durable à ces sinistrés. Angèle Dikongé résume les préoccupations majeures qui ont fait l'objet de leur échange dans cet entretien avec Isaac Remoyope.
Madame la représentante d'HCR en RDC, bonjour et bienvenue dans la province de l'Ituri.
Merci.
Quelles sont les questions clés que vous avez abordées avec le gouverneur sur les personnes en déplacement forcé en Ituri, qui est une province affectée par les conflits armés depuis 2017?
Nous avons échangé en effet très amplement sur la situation dans la province de l'Ituri. J'ai attiré l'attention de son Excellence sur le caractère civil et humanitaire des sites de déplacés laisse un tout petit peu à désirer. Nous avons connu des situations de mort d'hommes. Nous avons perdu des déplacés dans les sites. Il s'est avéré qu'il y avait quelques éléments armés, militaires, qui se retrouvaient dans les sites. Et le gouverneur a promis qu'il était déjà en train de travailler dans ce sens-là pour s'assurer que les sites, leur caractère civil et humanitaire reste respecté et qu'il continue de travailler dans ce sens-là et que toutes les situations qui se sont présentées et qui étaient plutôt ponctuelles ont été résolues jusque-là et il continue dans ce sens. Ensuite, j'ai évoqué avec le gouverneur la sécurité dans les sites de réfugiés, notamment qui se trouvent dans, autour de Haru, le site de Biringi, celui de Meri, qui sont en proie aux situations un peu instables du Sud-Soudan. Et il a promis aussi que là-dessus, un travail est en train d'être fait.
Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour ce qui concerne les réfugiés du Soudan du Sud? Est-ce qu'ils sont également menacés par l'extérieur, c'est-à-dire des civils ou des hommes armés en provenance de leur pays?
Ils sont menacés à partir de l'extérieur. Je crois savoir que l'instabilité qui continue, comment dire, de prévaloir dans leur pays d'origine, cette instabilité-là, il advient qu'elle se déporte sur le territoire congolais. Il y a comme un droit de poursuite qui s'exerce sur le territoire congolais. Et donc, nous demandons que l'autorité congolaise fasse preuve de plus d'hardiesse pour s'assurer que la protection internationale à laquelle ces réfugiés ont prétendu prévaille.
Parmi les personnes en déplacement forcé, il y a les déplacés internes qui pensent que la solution durable, c'est la paix pour leur permettre de regagner leur village d'origine. Quelles sont les dispositions qui sont prises par les gouvernements et les humanitaires?
Vous n'êtes pas sans savoir que l'Ituri est la province pilote pour la mise en œuvre des solutions durables pour les déplacés internes au plan onusien. Nous avons commencé un travail en Ituri. Aujourd'hui, je sais que 650 ménages ont déjà été relocalisés avec des abris de longue durée et une assistance pour les remettre dans une vie normale. C'est de cela que nous avons discuté, monsieur le gouverneur et moi-même, et la poursuite de notre travail dans tous ces axes de collaboration.
Que fait le HCR pour appuyer le gouvernement pour des solutions à long terme en faveur des déplacés internes qui déplorent parfois la suspension ou la réduction de l'aide humanitaire?
Pour pouvoir avoir des solutions durables, il faut que les déplacés, notamment, quittent les bâches sous lesquelles ils vivent, qu'ils puissent vivre dans des maisons plus pérennes, plus durables. C'est ce que nous faisons. Nous mettons en œuvre ce programme-là de relocalisation en les pourvoyant en abri plus durable. Menons aussi des programmes d'activités génératrices de revenus pour pouvoir permettre que ces personnes se prennent en charge elles-mêmes et qu'elles ne dépendent plus de l'aide humanitaire. Et je dois dire que dans cette direction spécifiquement, j'ai signé un partenariat très innovant avec Equity Bank, à qui je fais un clin d'œil ici, pour voir que les déplacés internes et les réfugiés ont accès au microfinancement qui seront donnés donc par Equity Bank. Et je suis en train de faire aussi, d'élargir ce partenariat-là à des bailleurs de fonds qui vont nous fournir la garantie dont nous avons besoin pour que les réfugiés et les déplacés accèdent à des financements sans que l'on trouvent qu'ils ne remplissent pas certaines conditions. Nous travaillons avec les acteurs de développement, nous travaillons avec les acteurs de paix pour nous assurer que la triangulation de la Charte des Nations Unies se fasse au Congo et que justement les déplacés sortent du carcan de déplacement et puissent amorcer une vie de normalisation.
Madame la représentante d'IACR en RDC, nous vous remercions.
Je vous remercie.
Madame Angèle Dikongé à Tangana répondait aux questions de Isaac Remoyope. Par ici prend fin ce journal coordonné et supervisé par Jacques-Yves Molima Aouta et Alain Rong Mouchinj. Debs Vita était à la technique. Merci d'avoir été des nôtres.